les logiques qui sont derrière ce qui se passe dans les pays arabes et dans les pays européens ne sont pas forcément les mêmes, même s'il y a une coïncidence de temps. Il y a une tendance qui est observable depuis 20 ou 25 ans, en fait, à une utilisation de plus en plus fréquente des manifestations et des mouvements sociaux, que ce soit en quantité ou que ce soit aussi en acceptation par l'opinion publique. C'est-à-dire l'idée que c'est un moyen légitime de s'exprimer, elle est devenue très majoritaire. Ça, c'est un peu une tendance générale. Sur les pays arabes, une des raisons parmi beaucoup, c'est que de toute façon, il y a guère d'autres moyens efficaces puisque les élections, quand elles ont lieu, sont truquées ou sont encadrées. Donc, il reste guère que la voix de la rue pour protester. Et puis, éventuellement, mais c'est un peu une autre logique, je pense que dans les mouvements qu'on associe aux indignés ou aux mobilisations sur la dette et ces choses-là, je dirais qu'il y a à la fois une tendance générale à recourir à la protestation de rue et probablement une perte de confiance dans les partis et la représentation politique traditionnelle pour prendre en compte un certain nombre de dossiers et de revendications.
Est-ce que toutes ces révoltes étaient inévitables ou est-ce qu'on pouvait en empêcher certaines ?
C'est toujours très facile de dire qu'après la fin de l'histoire qu'elles étaient inévitables. Non, je pense que dans le domaine des mouvements sociaux, surtout quand ça aboutit à des révolutions, c'est des choses qui sont très fluides, très imprévisibles et qu'on ne peut jamais dire qu'est-ce qui se serait passé. Je parle, comment finira ce qui se passe en Syrie ? Est-ce qu'à force de se faire tuer et torturer, les Syriens qui manifestent finiront par se décourager ou est-ce qu'il se passera quelque chose d'imprévu qui fera tomber le régime ? Personnellement, je me sens incapable de le dire. Bon, ce qu'on peut dire, si on prend le cas Tunisie, Égypte, Libye, les gens n'avaient pas beaucoup d'autres moyens de se faire entendre que de recourir à des formes de protestation de rue.
Est-ce que finalement tous ces mouvements sociaux sont pas devenus un petit peu un phénomène de mode ?
Moi, je répugne à parler de mode quand le risque qu'on prend, c'est de se faire tuer ou torturer quand on descend dans la rue, qui a certainement eu des effets d'imitation et de synergie. C'est-à-dire, en gros, l'idée... Puisque les voisins ont réussi à ébranler le régime ou à faire tomber le dictateur, donc c'est que la chose est possible, c'est qu'on n'est pas dans une espèce de politique fiction. Donc en ce sens-là, oui, je suis d'accord, il y a eu des phénomènes d'imitation ou des dynamiques transnationales qui ont joué. Et puis, si on prend plus l'autre côté de la Méditerranée, il y a effectivement dans la galaxie altermondialiste, des phénomènes de mise en réseau, d'échange d'expériences et des formes de synergie, incontestablement.
Peut-on comparer certaines de ces révoltes à celles de mai 68 ?
Je dirais que non. Alors effectivement, il y a cette idée, au fond, 1848-1968, des grands moments de synchronisation. Mais je pense qu'il y a une différence fondamentale, en simplifiant beaucoup, c'est que mai 68, ce sont largement des mobilisations pour réclamer des droits nouveaux et pour réclamer un partage différent de ressources et une richesse collective qui augmente. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus défensif. Ce sont des mouvements pour ne pas perdre des droits ou des niveaux de rémunération dont on disposait. Et je pense qu'il y a un côté beaucoup plus désespéré, beaucoup plus défensif, beaucoup plus inquiet, qui n'est pas de même nature que le côté joyeux et utopique qui pouvait exister en 68 en Europe ou en Amérique du Nord.
Et quel sens donner à la violence qui accompagne parfois la protestation ?
Si on regardait du côté de la Syrie, ce qui est remarquable, c'est qu'alors que les manifestants sont exposés à des niveaux de violence et de férocité de la répression tout à fait exceptionnels, on voit qu'ils sont très réticents à utiliser la violence eux-mêmes et que, par exemple, ils n'encouragent pas les déserteurs à utiliser les armes. Bon, là où il y a peut-être le plus d'éléments de violence contre des biens plus que contre des personnes, c'est dans le cas de la Grèce. Bon, là, je distinguerais entre éventuellement des formes de violence qui peuvent être le fait de petits groupes organisés pour qui c'est un calcul délibéré mais qui sont quand même assez minoritaires et une violence que j'associerais à l'idée de la rage ou du sentiment de s'être fait rouler. On peut ne pas l'approuver, on peut être choqué, mais des gens qui arrivaient à la retraite voient du jour au lendemain une petite retraite être amputée de 30 ou 40%. On peut au moins comprendre au sens de se mettre à leur place qu'ils puissent ne pas prendre ça avec philosophie.
On peut constater, en tout cas en Afrique, que c'est souvent après des élections qu'il y a des rébellions. Comment cela s'explique ?
Je pense qu'une des données, parce que dirait sans doute un africaniste, c'est que dans beaucoup de pays d'Afrique, où au fond ceux qui ont le pouvoir ont aussi en place des systèmes clientélistes où on apporte des avantages matériels, des postes, des subventions aux gens de sa région, aux gens de sa clique, éventuellement aux gens de son ethnie, entre guillemets. Le problème, c'est que souvent, les gens qui perdent le pouvoir ont le sentiment de perdre tout et de voir tous ces réseaux un peu clientélistes sorte de petits arrangements entre amis ou parfois de corruption qui vont se tarir, de se poser parfois même des questions sur leur sécurité physique, d'où probablement une beaucoup plus grande crispation à abandonner le pouvoir, parce qu'on a bien vu par exemple dans le cas de la Côte d'Ivoire.
Et au-delà des revendications sociales et politiques qui peuvent marquer un petit peu tous ces mouvements sociaux, est-ce que c'est pas un mécontentement général et international ?
Il y a des mécontentements sectorisés et divers, mais qui provoquent des choses transnationalement. Je pense qu'une tendance, c'est malgré tout le fait que sur les 30 années dernières, telles qu'ont été appelées ironiquement les 30 piteuses par opposition aux 30 glorieuses, il y a quand même eu une redistribution de la richesse dans beaucoup de pays développés. Et au fond, un pourcentage extrêmement mince, c'est à peine 1%. C'est des fois 1,5% de la population a réussi à concentrer énormément de richesses nationales. Les écarts se sont creusés. Et effectivement, il y a des phénomènes qui sont de l'ordre du ressentiment, du refus de situations qui sont très mal vécues, d'instabilité de travail, d'incertitude sur l'avenir. Et puis vraisemblablement, dans des pays du Sud, entre guillemets, il y a sans doute aussi une aspiration confuse à être gouverné plus démocratiquement, à avoir son mot à dire et à ne pas être dans la position qui était celle des sujets dans les anciens régimes occidentaux. Donc c'est deux logiques qui ne sont pas interchangeables mais qui interviennent dans la même temporalité.